Quand Shi Xiaoming vit son père entrer, il se faufila peureusement vers un coin de mur, mais Shi Xiang s'assit simplement en silence à côté de lui. « Ne crains rien. Aujourd'hui, je ne te gifle pas et je ne t'insulte pas. Je n'en ai déjà plus la force. » Il sortit un paquet de cigarettes, en tira deux et en tendit une à son fils, qui hésita un instant avant d'accepter. Tous deux allumèrent leurs cigarettes et fumèrent pendant un bon moment sans parler, jusqu'à ce que Shi Xiang lâche enfin « J'ai une nouvelle mission. Je vais devoir repartir à l'étranger. »« Mais, et ta maladie ?» demanda Shi Xiaoming en regardant son père avec inquiétude à travers un nuage de fumée. « Parle-moi d'abord de toi. » Le regard de Shi Xiaoming se fit implorant. « Papa, cette fois je risque gros. Pour quoi que ce soit d'autre, j'aurais pu te couvrir, mais pas ça. Ming, on est tous les deux des adultes, on est responsables de nos actes. » Shi Xiaoming baissa la tête de désespoir et tira une nouvelle bouffée en silence. « C'est à moitié ma faute, » continua Shi Xiang. « Depuis que tu es gosse, je ne me suis jamais vraiment occupé de toi. Tous les soirs quand je rentrais à la maison, j'étais si crevé que je prenais un verre et que j'allais me coucher directement. Je ne suis jamais allé à aucune réunion de parents d'élèves. Je n'ai jamais eu une vraie conversation avec toi. Mais ça ne change rien. On est responsable de nos actes. » Le regard embué de larmes, Shi Xiaoming écrasa son mégot sur sa table de chevet, comme s'il essayait de broyer la vie qu'il lui restait à vivre. La prison est un camp d'entraînement pour criminels. Quand tu seras à l'intérieur, oublie tout ce qu'on t'a dit sur la rééducation. Contente-toi de ne pas te salir les mains et apprends à te protéger. » Shi Xiang posa un sac en plastique sur le lit. À l'intérieur, deux cartouches de cigarettes du Yunnan. Si tu as besoin d'autre chose, ta mère te la portera. Shi Xiang se dirigea vers la porte, puis il se retourna et lança à son fils. Ming, tous les deux, on aura peut-être l'occasion de se revoir. Ce jour-là, tu seras peut-être plus vieux que moi et tu comprendras ce que j'ai maintenant sur le cœur. » Depuis la petite fenêtre de la porte, Shi Xiaoming regarda son père quitter le centre de détention. À sa silhouette, il avait l'air d'avoir beaucoup vieilli. Dans une époque où l'anxiété l'emportait sur toute autre chose, Luoji était devenu l'homme le plus décontracté du monde. Il se promenait le long du lac, faisait du voilier au milieu de l'eau, dégustait les recettes concoctées par son cuisinier à base des champignons et des poissons locaux. Il feuilletait à son loisir les livres de la riche collection de la bibliothèque et quand il s'enlaçait, il sortait faire une partie de golf avec les gardes. Il faisait des balades à cheval sur la prairie et sur le petit sentier forestier qui s'étendait vers les monts enneigés, mais il n'était encore jamais allé aussi loin. Souvent, il s'asseyait sur le banc près du lac, observant le reflet des montagnes dans l'eau, ne pensant à rien ou pensant à tout. Les jours passaient sans qu'il s'en soucie. Durant cette période, Luoji resta seul, sans aucun contact avec le monde extérieur. Kent disposait d'un petit bureau dans le domaine, mais il ne venait que rarement l'importuner. Luoji n'avait eu qu'une seule discussion avec l'officier en charge de sa protection. Il avait exigé que les sentinelles ne le suivent pas lors de ses promenades, et s'il le fallait vraiment, il devait s'efforcer de ne pas se faire voir. Luoji se sentait comme le petit bateau à voile baissé au centre du lac. Il flottait paisiblement, sans vraiment savoir où il allait s'amarrer et sans se soucier de la direction dans laquelle il dérivait. Parfois, il repensait à sa vie d'avant et il constatait avec étonnement que ces quelques jours lui donnaient l'impression que des années entières s'étaient écoulées, ce dont il était satisfait. Luoji portait un intérêt tout particulier à la cave du domaine. Il savait que les vins contenus dans ces bouteilles couvertes de poussière et soigneusement rangées sur les étagères étaient de premier ordre. Il buvait dans son salon, dans sa bibliothèque et parfois même sur le voilier au milieu du lac, mais jamais trop. Il se laissait simplement aller à une sensation de bien-être, à mi-chemin entre ivresse et sobriété. Dans ces moments-là, il allumait la pipe qui lui avait été laissée par l'ancien propriétaire et faisait des nuages avec la fumée. Même quand il pleuvait et qu'il faisait froid et gris dans le salon, Luoji ne permettait pas qu'on allume la cheminée. Il disait que le moment n'était pas encore venu. Ici, il ne surfait jamais sur Internet, il regardait seulement de temps en temps la télévision, zappant néanmoins les informations en continu et ne regardant que des émissions sans lien avec les problèmes de son temps, chose devenue rare à cette époque, bien qu'en cherchant bien, on puisse encore tomber sur quelques résidus de l'âge d'or. Une nuit, une nouvelle fois légèrement ivre après avoir terminé une bouteille de cognac dont l'étiquette indiquait 35 ans d'âge, il se saisit de la télécommande de son écran HD et zappa sur quelques chaînes d'information. Un bulletin en anglais piqua son attention. On avait retrouvé l'épave d'un navire datant du milieu du XVIIe siècle. Ce trois-mâts qui avait mis les voiles à Rotterdam pour rejoindre la ville indienne de Faridabad avait malheureusement sombré au Cap Horn. Parmi les reliques repêchées par les scaphandriers sur l'épave, un tonnelet de vin scellé que les experts estimaient encore buvable. Conservé depuis 3 siècles au fond de l'océan, son goût devait être incomparable. Luoji enregistra la majorité du programme et appela Kent. « Je veux obtenir ce tonnelet de vin. Achetez-le aux enchères, » dit-il. Kent prit aussitôt les mesures nécessaires, puis il revint 2 heures plus tard dire à Luoji que le prix estimé du tonnelet était incroyablement élevé. Les enchères commenceraient peut-être à environ 300 000 euros. Ce montant n'est rien à l'échelle d'un projet de colmateur. Achetez-le, cela fait partie du plan. Et ainsi, après le fameux sourire au colmateur, le programme colmateur fit naître une nouvelle expression. Faire partie du plan de colmateur. Une phrase renvoyant à une action absurde, mais qui doit tout de même être effectuée. 2 jours plus tard, le tonnelet fut amené dans le salon de la villa. De nombreux coquillages s'étaient incrustés à sa surface. Luoji sortit de la cave un robinet en or conçu spécialement pour ce type de tonneau, puis il perça délicatement la paroi et se versa un verre. Le liquide était d'une alléchante robe ambrée. Il huma son parfum et porta le verre à ses lèvres. « Docteur, est-ce que cela fait partie du plan ?» demanda Kent en s'efforçant de ne pas trahir ses sentiments. « En effet, c'est une partie du plan. » Luoji s'apprêtait à boire, mais il vit tous les gens présents dans la pièce et lâcha « Sortez, tous !» Ni Kent ni les autres ne bougèrent. « Vous faire sortir fait aussi partie du plan. Dehors !» rugit Luoji en les dévisageant. Kent secoua légèrement la tête et entraîna les autres vers la sortie. Luoji but une première gorgée. Il fit de son mieux pour se convaincre qu'il goûtait là une saveur unique au monde. Néanmoins, il n'eut pas le courage d'en boire une deuxième. Mais il ne s'en tira pas à aussi bon compte. La nuit même, il vomit et se vida aux toilettes, jusqu'à ce qu'il finisse par cracher une bile de la même couleur que le vin. Il était si faible qu'il ne parvint pas à se lever du lit. Des médecins et des experts comprirent plus tard en ouvrant le tonnelet qu'une épaisse étiquette en laiton se trouvait à l'intérieur. Il était courant à cette époque de graver les étiquettes dans les tonneaux. Pendant ces longues années, ce morceau de laiton à l'origine tout à fait inoffensif pour le vin avait provoqué une réaction chimique et une substance toxique s'était dissoute dans la boisson. Quand le tonnelet fut emporté, Luoji crut voir comme un sourire en coin sur le visage de Kent. Luoji était affalé sans force sur son lit. Tandis qu'il regardait le liquide couler dans la perfusion, un intense sentiment de solitude l'envahit. Il savait que l'oisiveté de ces derniers temps n'avait été qu'un bref instant d'apesanteur avant une chute vers les abysses d'une solitude dont il avait maintenant atteint le fond. Mais Luoji avait anticipé dès le début que ce moment arriverait, il s'y était préparé. Il attendait quelqu'un pour enclencher l'étape suivante de son plan. Il attendait Shixiang. Taylor était debout, parapluie à la main, sous le crachin de Kagoshima. 2 mètres derrière lui se tenait Koichi Inoue, l'officier en charge de sa sécurité, dont le parapluie était fermé. Ces 2 derniers jours, il avait gardé avec le colmateur la même distance, tant physique que mentale. Il se trouvait à présent dans le musée de la paix des kamikazes. Une statue de pilote était érigée devant eux, tandis qu'à côté trônait un avion suicide de couleur blanche qui portait le numéro 502. La pluie revêtait la statue et l'appareil d'une couche luisante qui leur donnait une trompeuse apparence organique. N'y aurait-il aucune marge de manœuvre pour discuter de ma proposition ? Demanda Taylor. Je vous recommande de ne pas parler de tout ça aux médias. Vous auriez des problèmes. Les paroles de Koichi Inoue étaient aussi glaciales que la pluie. Aujourd'hui encore, l'histoire reste si sensible ? Ce qui est sensible, ce n'est pas l'histoire, mais votre proposition de ressusciter les kamikazes. Pourquoi ne faites-vous pas ça aux États-Unis ou ailleurs ? Croyez-vous qu'il n'y ait au monde que les Japonais pour offrir leur vie en sacrifice ? Taylor ferma son parapluie et se rapprocha de Koichi Inoue. Ce dernier ne s'écarta pas, mais ce fut comme si un champ de force autour de lui empêchait Taylor d'avancer davantage. « Je n'ai jamais dit que les futurs corps de kamikazes devaient nécessairement être composés de Japonais. Ce sera une force internationale, mais c'est dans votre pays que tout a commencé. Ne serait-ce pas naturel que ce soit ici que nous les fassions renaître ? Dans une guerre stellaire, ce type d'offensive aura-t-il encore un sens ? Vous devez savoir qu'à l'époque, les succès militaires réels des unités de kamikazes ont été très limités. Ils n'ont pas pu renverser le cours de la guerre. » Votre Excellence, officier, la flotte spatiale que je compte créer sera composée de chasseurs spatiaux portant à leur bord des superbombes. Pourquoi forcément des hommes ? Dans le cadre d'une attaque à bout portant, des ordinateurs seraient bien en mesure de faire le travail. Cette question sembla fournir à Taylor l'opportunité qu'il attendait. Exalté, il rétorqua. C'est bien là tout le problème. Nos ordinateurs sont actuellement incapables de remplacer les pilotes humains sur les chasseurs terrestres, et les nouvelles générations de calculateurs quantiques sont tributaires du progrès des sciences fondamentales, qui sont elles-mêmes bloquées par les intellectrons. Ce qui signifie que dans 4 siècles, les performances de nos calculateurs resteront fortement limitées, et nous aurons toujours besoin que les armes soient contrôlées par les hommes. Pour tout vous dire, rétablir dès aujourd'hui le corps des kamikazes aurait surtout une portée symbolique, car sur 10 générations, personne ne fera don de sa vie. Mais il convient de rétablir cet esprit et cette foi au plus tôt. Koichi Inoue se tourna. C'était la première fois qu'il faisait directement face à Taylor. Ses cheveux mouillés étaient plaqués sur son front et la pluie perlait comme des larmes sur son visage. Votre projet enfreint un principe moral fondamental des sociétés modernes. La vie humaine doit l'emporter sur toute autre considération. Les nations et les gouvernements ne peuvent exiger des hommes qu'ils prennent part à ce genre de mission suicide. Je me souviens de cette phrase prononcée par Yang Wenli, le personnage des héros de la galaxie. Dans une guerre se joue la grandeur et la décadence d'une nation. Mais qu'est-ce que cela vaut à côté des droits et des libertés individuelles ? Ce qu'il reste, c'est faire de son mieux. Taylor poussa un long soupir. Je vais vous dire une chose. Vous avez abandonné ce que vous possédiez de plus précieux. Et une fois qu'il eut prononcé ces mots, il rouvrit son parapluie dans un bruit sec, se retourna et repartit, courroucé. Ce ne fut qu'après avoir rejoint la grande porte d'entrée du musée qu'il jeta un œil en arrière. Koichi Inoue était toujours debout devant la statue, se laissant tremper par la pluie. Pendant que Taylor marchait sous la pluie balayée par un vent marin, une phrase ne cessait de résonner dans son esprit, une phrase issue d'un testament de kamikaze japonais qu'il avait lu dans un présentoir du musée. « Maman, je vais devenir une luciole. » Les choses sont plus compliquées que nous l'imaginions. Confia le docteur Allen à Ray Diaz. Il se trouvait à côté d'un obélisque en roche volcanique noire qui marquait le premier essai par l'homme d'une arme nucléaire. « La structure est-elle vraiment si différente ?» l'interrogea Ray Diaz. « Cela n'a rien de commun avec les bombes existantes. Le degré de complexité du modèle mathématique que nous devons produire est 100 fois plus élevé que ceux des bombes actuelles. C'est un projet colossal. Que puis-je faire pour vous ?» Cosmo fait partie de votre état-major, si je ne m'abuse. Demandez-lui de rejoindre mon laboratoire. William Cosmo ? Lui-même. Mais c'est un astrophysicien dont les recherches portent sur la puissance des étoiles. Que viendrait-il faire dans votre laboratoire ? C'est précisément ce dont j'allais vous parler. Dans votre esprit, une bombe atomique explose une fois déclenchée, mais en réalité, le processus se rapproche davantage d'un incendie. Plus la bombe est puissante, plus la combustion est longue. Par exemple, quand une bombe nucléaire de 20 mégatonnes explose, la boule de feu peut se consumer pendant une vingtaine de minutes. Combien de temps pourrait durer celle d'une bombe de 200 mégatonnes? Réfléchissez. À quoi cela ressemblerait-il? À un petit soleil? Exactement. La réaction de la fusion de cette bombe serait très proche de celle d'une étoile. Pendant une courte période, elle reproduirait ainsi le processus d'évolution stellaire, le modèle mathématique qu'il nous faut établir et par conséquent celui d'une étoile. Devant eux s'étendait le désert qui encerclait le centre de lancement de White Sands. Le jour ne s'était pas encore levé et il faisait trop noir sur la plaine pour distinguer le moindre détail. En face de ce paysage, tous deux ne purent s'empêcher de repenser au célèbre décor principal du jeu des trois corps. « Je suis très enthousiaste, Monsieur Ray Diaz. Veuillez pardonner mes réticences du début. J'ai maintenant le sentiment que ce projet dépasse de loin la simple construction d'une superbombe. Savez-vous ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de créer une étoile virtuelle. » Ray Diaz eut un air désapprobateur. « Quel rapport avec la défense de la planète? Ne nous limitons pas à cela. Les collègues de mon laboratoire et moi-même sommes avant tout des scientifiques. » Et puis, ce modèle ne serait pas dénué de signification pratique. En rentrant les bons paramètres, le modèle de l'étoile pourra devenir celui du Soleil. Pensez-y. On détiendrait le modèle du Soleil dans une mémoire d'ordinateur. Nous ne nous appuyons pas assez sur les potentialités de cette gigantesque présence si proche de nous dans l'univers. Peut-être que ce modèle nous fournira encore plus de découvertes. La dernière utilisation du Soleil a mené l'humanité dans l'impasse. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, répliqua Diaz. Mais peut-être qu'une nouvelle découverte pourra faire sortir l'humanité de cette impasse. Je voulais vous inviter ici pour regarder le lever du Soleil. C'était l'aube. Le Soleil pointait son sommet rutilant au-dessus de la ligne de l'horizon. La plaine sembla se développer comme une photographie. Ray Diaz vit que ce lieu où s'était jadis levé un soleil infernal était déjà recouvert d'herbes sauvages clairsemées. « Je deviens la mort, le destructeur des mondes !» lâcha Allen. « Comment ?» cria Ray Diaz en tournant brusquement la tête vers Allen, comme si quelqu'un lui avait tiré dans le dos. « C'est la phrase prononcée par Oppenheimer quand il a vu exploser la première bombe atomique. » Je crois que c'était une citation du récit indien de la Bhagavad Gita. À l'est, l'auréole solaire s'élargissait rapidement comme si elle jetait une immense toile dorée sur le monde. L'aube où Iwanji avait utilisé l'antenne de la base Côte Rouge avait vu se lever le même soleil. Encore plus tôt, c'était aussi ce même soleil qui avait illuminé les ruines laissées par l'explosion de la première bombe atomique. Des millions et des centaines de millions d'années plus tôt, les yeux mornes des australopithèques et des dinosaures avaient aussi vu se lever ce même disque solaire. Encore plus tôt, la première cellule vivante d'un océan primitif avait elle aussi ressenti les rayons brumeux du même astre transpercer la surface de l'eau. Allen poursuivit. À l'époque, un homme nommé Bainbridge avait prononcé après Oppenheimer une phrase pour sa part totalement dénuée de poésie. « Maintenant, nous sommes tous des fils de pute. » « Qu'avez-vous dit ?» demanda Ray Diaz, dont la respiration accélérait à mesure que le soleil se levait. « Je voudrais vous remercier, monsieur Ray Diaz. À compter d'aujourd'hui, nous ne sommes plus des fils de pute. » Le soleil continuait à se lever lentement avec une majesté sans égale, comme s'il déclarait au monde « À part moi, tout dans ce monde est aussi éphémère qu'une ombre. » « Que se passe-t-il, monsieur Ray Diaz ?» Allen vit que Ray Diaz venait de s'accroupir, une main sur le sol, comme pour vomir, mais rien ne sortait de sa bouche. Allen remarqua que son visage avait pâli et qu'il était trempé de sueur. Il n'avait plus la force d'écarter sa main qu'il avait accidentellement posée sur des chardons. « Dans la voiture !» gémit faiblement Ray Diaz, puis il tourna la tête dans la direction du soleil levant en se cachant le visage avec l'autre main. Il était manifestement incapable de se relever et voulait qu'Allen l'aide, mais ce dernier n'arrivait pas à déplacer son corps trapu. « Approchez la voiture !» halta Rey Diaz tout en ramenant vers lui la main qui cachait le soleil. Lorsqu'Allen arriva avec le véhicule, il découvrit Rey Diaz couché sur le sol, comme paralysé. Il eut tout le mal du monde à le hisser sur le siège arrière. « Les lunettes de soleil ! J'ai besoin de lunettes !» Rey Diaz était étendu sur la banquette arrière. Ses deux bras s'agitaient comme s'il était pris de démence. Allen trouva les lunettes dans la boîte à gants et les lui tendit. Une fois que Rey Diaz les eut chaussées, il parvint à retrouver une respiration un peu plus régulière. « Ce n'est rien. Rentrons, vite !» dit Rey Diaz à bout de force. « Mais enfin, qu'avez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je crois que c'est à cause du soleil. Du... Depuis quand avez-vous ce genre de symptômes ?»« C'est la première fois. » À compter de ce jour, Rey Diaz développa une étrange héliophobie. À la moindre vue du soleil, son corps s'effondrait. Le vol a-t-il été long? Vous avez l'air épuisé, lança Luoji à Shixiang à son arrivée.
Ouais, c'est certain que ce n'était pas aussi agréable que notre dernier vol ensemble, répondit Shixiang tout en observant les environs.
Qu'en dites-vous? Magnifique, non?
Non, répondit Shixiang en secouant la tête. Avec ces forêts sur les trois faces, une approche camouflée est un jeu d'enfant. Et puis il y a ce lac dont les rives sont très proches de la villa. Cela risque d'être difficile de se prémunir contre des hommes grenouilles qui auraient plongé depuis la forêt de l'autre rive. La prairie, en revanche, offre un avantage certain, la vue est dégagée.
Ne pourriez-vous pas être un peu plus romantique?
Frangin, je suis venu pour travailler.
Je pensais justement vous confier un travail romantique. Luoji entraîna Shixiang dans le salon. Ce dernier examina la pièce, mais le luxe et le raffinement du lieu semblaient le laisser de marbre. Luoji servit de l'alcool à Shixiang dans un verre à pied en cristal qu'il déclina en secouant la main.
« C'est du brandy, du 30 ans d'âge. Je ne peux pas boire maintenant. Parlez-moi plutôt de ce travail romantique. »
Luoji porta le verre à ses lèvres et but une gorgée, puis il s'assit près de Shixiang.
« Dashi, je vais vous demander une faveur. Dans votre ancien boulot, on vous demandait parfois de retrouver un individu dans tout le pays, voire dans le monde entier, n'est-ce pas ?»«
Ouais. » »«
Seriez-vous encore capable de le faire ?»«
Débusquer quelqu'un, sûr. » »«
Bien, bien. Alors, aidez-moi à trouver une personne. » Une jeune femme d'environ 20 ans. Cela fait partie du plan, bien sûr.
Nationalité, nom, prénom, adresse?
Je n'ai rien de tout ça. Et la possibilité même qu'elle soit de ce monde est faible.
Shixiang observa Luoji et, après avoir marqué un temps d'arrêt de quelques secondes, il demanda.
Vous l'avez rêvé?
Luoji hocha la tête. Y compris au réveil. Shixiang hocha lui aussi la tête et il donna une réponse que Luoji n'avait pas imaginée.
« Alors ça va. »«
Comment ?»«
Je dis que ça va. Au moins, vous savez à quoi elle ressemble. »«
C'est une jeune femme asiatique, disons chinoise. »
Et tout en parlant, Luoji se saisit d'une feuille et d'un crayon et se mit à dessiner.
Son visage est comme ça, son nez comme ça, et sa bouche... Je ne sais pas dessiner. Ses yeux, comment dessiner ses yeux? Est-ce que vous avez ce genre de logiciel qui peut dessiner un visage en suivant sa description par des témoins et finit par fournir un portrait ressemblant?
Ouais, sur mon ordinateur portable.
Eh bien, allez le chercher et commençons.
Shixiang s'affala sur le canapé et s'installa dans une position confortable.
Ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Continuez à me parler d'elle. Laissons de côté son apparence physique. Racontez-moi d'abord quel genre de personne elle est.
Une partie de l'âme de Luoji sembla s'embraser. Il se leva puis commença à déambuler avec agitation devant la cheminée éteinte.
Elle, comment dire, sa venue dans notre monde C'est comme une fleur de lys qui aurait poussé au milieu d'un tas de poubelles. Elle est si pure, si délicate que rien de ce qui l'entoure ne pourrait la souiller. Mais tout peut la blesser, oui, tout ce qui est autour d'elle risque de l'écorcher. La première fois que vous la voyez, votre première réaction, c'est d'aller vous occuper d'elle, ou bien non, de la protéger, de la défendre contre cette réalité brutale et sauvage. Vous êtes prêt à tout sacrifier pour elle, elle est si...
Oh, écoutez comme je bafouille, je n'arrive pas à la décrire correctement.
C'est toujours comme ça, sourit Shixiang. Le sourire nigo qu'il avait arboré lors de leur première rencontre paraissait maintenant plein de sagesse et de réconfort.
Mais vous avez été suffisamment clair jusqu'ici.
Bien, bien, alors je continue. Elle, comment dire, aucun adjectif ne saurait exprimer ce à quoi elle ressemble dans mon cœur.
Luoji commençait à s'impatienter. Il voulait arracher son cœur et le montrer à Shixiang. Ce dernier le calma avec un signe de la main.
« Laissez tomber. Parlez-moi de votre relation, soyez le plus précis possible. »«
Notre relation? Comment savez-vous ? »
s'exclama Luoji, les yeux écarquillés de surprise.
Shixiang rit une nouvelle fois et jeta un coup d'œil autour de lui. « Il doit y avoir des bons cigares dans ce genre de baraque, non ?»«
Oui, oui !»
Luoji s'empressa de saisir un coffret en bois finement ouvragé sur la tablette de la cheminée. Il en sortit un épais Davidoff qu'il trancha avec un coupe-cigare du même raffinement avant de le tendre à Shixiang. Puis il l'alluma avec une longue allumette en cèdre. Shixiang tira une bouffée et hocha la tête avec satisfaction.
« Je vous écoute. »
Luoji dépassa son bafouillage de tantôt et se lança cette fois dans un torrent de phrases. Il raconta sa première apparition à la bibliothèque, leur rencontre dans le dortoir devant la cheminée imaginaire, sa présence dans la salle de cours, la beauté du reflet des flammes sur son visage à travers la bouteille de vin, comme les yeux du crépuscule. Il évoqua avec bonheur leur premier voyage, décrivant les détails les plus infimes, les champs enneigés, les bourgades et les villages sous le ciel bleu, les montagnes comme des vieillards oisifs, le coucher du soleil derrière le sommet et le feu de camp. Quand il eut fini, Dashi écrasa son mégot.
« Bien, ça devrait suffire. J'ai quelques pistes sur cette fille. Vous allez me dire si j'ai raison. »«
D'accord, oui, bien sûr. »
Concernant son niveau d'éducation, elle a au moins une licence à l'université, mais aucun doctorat.
Oui, exact. Elle a de grandes connaissances, mais pas au point d'être sclérosée par celle-ci. Cela la rend simplement plus sensible au monde et à la vie,
approuva Luoji d'un hochement de tête.
Elle est née dans une famille d'intellectuels sans pour autant avoir vécu dans l'opulence. Peut-être simplement un peu mieux que la moyenne des gens ordinaires. Depuis qu'elle est petite, elle bénéficie de l'amour de ses deux parents, mais elle n'est que très peu en contact avec la société, en particulier les plus basses couches sociales.
Exact. Exact. Elle ne m'a jamais parlé de sa famille. En fait, elle ne m'a jamais rien raconté sur elle, mais je suis sûr que tout ça est vrai.
Maintenant, si l'une des hypothèses que je vais vous soumettre à présent est fausse, dites-le-moi. Elle aime porter ses vêtements simples mais élégants, quoique peut-être un peu trop simples pour une femme de son âge.
Luoji acquiesça niaisement.
Mais elle est toujours vêtue d'un habit blanc. Un chemisier, un col, qui contraste singulièrement avec le reste de ses vêtements qui sont de couleur sombre.
Dashi, vous...
Luoji le regardait parler avec une vénération dans le regard.
Shixiang lui fit signe de le laisser poursuivre. « Une dernière chose. Elle n'est pas grande. 1m60 environ et son corps est, très fin. Du genre à être emporté au premier coup de vent. Elle ne paraît pas trop petite non plus. Bien sûr, je pourrais encore continuer, mais avec tout ça, je ne dois pas tomber très loin, non ?»
Luoji aurait eu envie de s'agenouiller.
Dashi, je me prosterne, vous êtes la réincarnation de Sherlock Holmes.
Shixiang se leva.
Bien, je vais faire son portrait sur mon ordinateur.
Le soir même, il revint dans le salon avec son ordinateur portable. Lorsque l'écran afficha le visage de la jeune femme, Luoji demeura pétrifié comme si on lui avait lancé un sort. Shi Xiang semblait visiblement avoir prévu cette scène, car il se rendit près de la cheminée pour prendre un nouveau cigare qu'il trancha, alluma et fuma pendant un bon moment avant de retourner voir Luoji. Il constata que ses yeux étaient encore rivés sur l'écran.
« S'il y a encore des points qui ne correspondent pas, dites-le-moi et je rectifierai. »
Luoji eut bien du mal à détourner son regard de l'écran. Il se leva et alla à la fenêtre. Il plongea son regard dans les monts enneigés baignés par le clair de lune. Il marmonna comme dans un rêve éveillé. « Pas besoin. »«
Je m'en doutais, » dit Shi Xiang en éteignant l'ordinateur.
Les yeux toujours dans le lointain, Luoji prononça une phrase que d'autres avant lui avaient utilisée pour qualifier Shi Xiang.
« Dashi, vous êtes vraiment diabolique. »
Ce dernier s'affala dans le canapé, éreinté.
« Il n'y a rien d'ésotérique. Nous sommes tous des hommes, non ?»
Luoji se retourna. « Mais l'amour dont rêve chaque homme est différent ?»«
Certes, mais il y a des choses universelles pour peu qu'on appartienne à la même espèce. »«
Peut-être, mais pas avec autant de ressemblances. » »«
Vous m'en avez quand même dit beaucoup, rappelez-vous. »
Luoji marcha jusqu'à l'ordinateur et le ralluma. « Envoyez-moi une copie. » Puis il s'empressa d'ajouter « Croyez-vous pouvoir la trouver ?»«
Ce que je peux simplement vous répondre maintenant, c'est qu'il y a de fortes chances, oui, mais je ne peux pas exclure totalement de ne jamais la trouver.
Quoi ?» Luoji s'immobilisa et regarda Shi Xiang d'un air incrédule.
« Comment voulez-vous que je vous le garantisse à 100% ?»«
Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, au contraire, je pensais que vous me répondriez qu'il n'y avait presque aucune chance, ou bien peut-être une chance sur 1 million, je m'en serais déjà satisfait. »
Il se retourna vers le portrait qui s'affichait sur l'écran et reprit d'une voix rêveuse.
« Comment une telle femme pourrait-elle être de ce monde ?»
Shi Xiang eut un rire moqueur.
« Professeur Luo, combien de personnes avez-vous croisées dans votre vie ?»
« Bien entendu, c'est sans commune mesure avec vous, mais je sais bien qu'il n'existe dans ce monde aucune femme ni aucun homme parfait. »«
Comme vous l'avez dit vous-même, il m'est déjà arrivé de débusquer un individu au milieu d'une foule de plusieurs millions. Et je peux vous dire avec l'expérience que j'ai qu'il y a toutes sortes de personnes dans ce monde, vieux frère, y compris des femmes et des hommes parfaits. C'est simplement que votre destin ne vous a pas mis sur leur chemin. »
C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça.
C'est parce que ce qui est parfait pour vous ne l'est peut-être pas pour votre voisin. Cette femme de vos rêves, elle a clairement à mes yeux des imperfections. C'est pourquoi il y a de bonnes chances pour que je vous la trouve.
Mais certains réalisateurs ont beau chercher leur acteur idéal parmi plusieurs dizaines de milliers de candidats, ils finissent tout de même parfois par ne pas trouver ce qu'ils souhaitent.
« Un réalisateur n'a pas les mêmes compétences professionnelles que moi. Et puis nous ne nous limitons pas à quelques dizaines de milliers de personnes, mais plutôt à des centaines de millions. Nos méthodes et nos outils sont autrement plus sophistiqués. Je vous donne un exemple. Les ordinateurs du centre d'analyse du ministère de la Sécurité publique sont capables de faire correspondre une photographie avec un visage parmi plus de 100 millions d'individus. Et il ne leur faut pas plus d'une demi-journée.
« Simplement, cela dépasse mon périmètre de responsabilité et il faut d'abord que j'en réfère à ma hiérarchie. Si mes supérieurs approuvent cette mission et qu'ils me la confient, je ferai en sorte de la trouver. »«
Dites-leur que c'est une partie importante de mon plan de colmateur et que cette mission doit être prise très au sérieux. »
Shi Xiang se fendit d'un sourire équivoque, puis il se leva et prit congé.